Bonjour à toutes et à tous, ici Laurent Breillat pour apprendre.photo et bienvenue dans le podcast La Photo aujourd'hui,
la série de discussions avec ceux qui font vraiment la photo aujourd'hui, photographes bien sûr, mais aussi tous les autres secteurs de l'art photographique, des musées à l'édition, en passant par les galeries. Ces interviews sont aussi disponibles sur ma chaîne YouTube, dont le lien est en description si jamais vous préférez nous voir, ainsi que quelques illustrations de ce qu'on raconte. Si vous appréciez ce format, pensez à vous abonner et à laisser une évaluation dans votre appli de podcast préférée, ça m'aidera beaucoup à continuer. Allez, je vous laisse avec la discussion du jour.
Apprendre.photo.
Aujourd'hui, je me trouve à l'Institut pour la photographie à Lille, qui ouvre ses portes pour quelques expositions avant une rénovation complète. Alors dans quelques instants, on va parler plus en détail de comment se passe concrètement la préparation d'une exposition comme celle-ci, grâce à Marion Ambrosi, la chargée de production de l'exposition, qui m'a fait l'honneur de répondre à mes questions. Mais d'abord, parlons un petit peu de l'expo. Lisette Model est née à Vienne, en Autriche, en 1901. Elle s'installe à Paris en 1924 pour étudier le chant lyrique et décide finalement d'étudier les arts visuels en 1933. En 1934, elle se rend à Nice pour rendre visite à sa mère et à cette occasion, elle réalise une série de portraits sur la promenade des Anglais qui reste parmi ses œuvres les plus connues aujourd'hui. Elle préfigure ce qui fera son style, des portraits sans concession qui expriment la vanité et la solitude toujours serrés sur l'individu, grâce à l'usage du recadrage. En 1938, elle émigre à New York avec son mari, sentant les tensions monter en Europe. Elle y devient rapidement une photographe importante, publiée dans de nombreux magazines, grâce à ses travaux qui explorent l'énergie de New York, le consumérisme américain. Elle fait partie de la Ligue photographique américaine, qui finit par être classée comme organisation communiste par le FBI en raison des images produites par beaucoup de ses membres qui souhaitent attirer l'attention sur les problèmes sociaux. Elle refuse de devenir informatrice pour le FBI et finit donc sur la liste de surveillance de la sécurité nationale, ce qui la freine beaucoup pour obtenir des missions photographiques. Elle se redirige donc vers l'enseignement, d'abord à l'Institut des Beaux-Arts de San Francisco, à l'invitation d'Ansel Adams, excusez du peu, puis à la New School for Social Research à New York. Elle y est réputée encourager une approche subjective et créative de la photographie et pour sa critique, disons virulente, des étudiants dont le travail manque de passion. Parmi ses élèves se trouvent de nombreux photographes célèbres, dont Diane Arbus, Rosalind Fox Solomon et Léon Lebenstein, dont les travaux sont également présentés dans cette exposition « Une école du regard » à l'Institut pour la photographie, qui rend hommage à son travail, à sa carrière de photographe et d'enseignante. L'exposition présente également des photographies de Marie-Hélène Marc, qui a beaucoup été influencée par le travail de Lisette Model. Maintenant que vous en savez plus, on retrouve Marion Ambrosi, la chargée de production de l'exposition, qui a bien voulu répondre à mes questions sur la préparation d'une exposition comme celle-ci. Marion Ambrosi, merci de m'accueillir ici, de bien vouloir répondre à mes questions. Pour commencer, puisque cette vidéo s'adresse à un public qui ne sait pas forcément comment ça se passe, la préparation d'une expo, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu en quoi consiste votre travail ?
Oui, alors bonjour et merci de venir voir l'exposition et le projet de l'Institut pour la photographie. Je suis pour ma part en charge de la production des expositions pour l'Institut pour la photographie et donc pour cette première programmation, on présente cette exposition différente sur la thématique extraordinaire regard photographique sur le quotidien. Et donc, sur la production d'une exposition, on va prendre en charge toute la concrétisation de cette exposition à partir du moment où le commissariat de l'exposition et le sujet, les artistes ont été sélectionnés, choisis et le contenu construit. On prend en charge toute la question contractuelle avec les artistes, avec les commissaires. Mmh. Toute la partie régie des œuvres, donc la rédaction des contrats, des formulaires de prêt, toute la partie assurance et transport des œuvres aussi à planifier, la scénographie d'exposition et donc le plan d'accrochage. Selon les expositions, il peut y avoir de la production de tirages photographiques. Donc on va prendre en charge les tirages également, toute la partie encadrement et ensuite la question de l'accrochage, le montage de l'exposition et la réalisation plus globale de l'ensemble de l'aménagement scénographique des espaces.
Donc en amont, il y a la partie commissariat de l'exposition qui est plutôt sur le choix du sujet de l'exposition et puis des artistes qu'on va exposer pour illustrer ce sujet-là justement. Et puis ensuite, il faut choisir quelles œuvres on va montrer. Est-ce que tu pourrais nous dire comment ça s'est passé à ce moment-là, comment on fait pour choisir ces œuvres ?
Donc la commissaire de l'exposition, Anne Lacoste, qui est notre directrice, dans le choix des photographes qu'elle a fait et qu'elle a choisi de représenter dans cette exposition. Elle est allée voir les différents fonds et les différents représentants de ces photographes, donc soit collectionneurs, soit détenteurs de fonds, soit galeristes. Mmh. Et elle est allée sélectionner les œuvres sur place. Donc, en ce qui concerne Lisette Model, ça a été le fonds Baudouin Lebon à Paris. Mmh. Ensuite, à New York, sur les œuvres de Léon Levinstein et de Marie-Hélène Marc, qui sont représentées par la galerie Howard Greenberg. Mmh. Et ensuite, sur la galerie Bruce Silverstein pour les œuvres de Rosalind Fox Salomon. Et donc, elle est allée sur place sélectionner les œuvres dans les différents fonds. Et ensuite, voilà, c'était aussi une question de disponibilité, des différents tirages qui étaient potentiellement aussi exposés dans d'autres institutions. Donc après, mmh. c'est à vérifier avec les différents estates et voilà.
Ok, ça marche.
C'est fait comme ça. Et ensuite, après, c'est là où on prend le relais au niveau de la production. Et une fois que la liste des œuvres sélectionnées est figée, qu'on a pu vérifier la disponibilité de toutes les œuvres, où là, on met en place les différents formulaires de prêt et on engage le travail de régie des œuvres.
Et donc, justement, ensuite, comment ça se passe? Parce que ces œuvres, faut les transporter. Faut, j'imagine, voir comment va se passer le prêt avec les différentes institutions qui les possèdent. Comment ça se passe tout ça?
Alors, c'est dans le formulaire de prêt, il y a certaines conditions de prêt sur lesquelles on doit s'engager. Donc, notamment par rapport au lieu où les œuvres vont être exposées, il faut qu'on assure un minimum de conditions d'exposition mmh. en termes de notamment de luminosité, mais surtout d'hygrométrie du lieu, mmh. ce qui n'était pas forcément évident avec cet espace qui est un lieu en devenir et qui va être réhabilité, mais qui pour le moment n'est pas totalement aux normes muséales. Donc c'est des normes qu'on a dû mettre en place spécifiquement pour cette exposition et pour mmh. pouvoir assurer et la température et le taux d'hygrométrie et la luminosité pour l'exposition afin de pouvoir s'engager auprès des prêteurs et sur le respect de ces conditions d'exposition. Ensuite, sur la question du transport, alors c'est vrai que notamment sur toutes les œuvres qui sont arrivées des États-Unis, il y a une question de transport et une question de coût de transport sur le fait de faire venir des œuvres encadrées ou des tirages simples. Mmh. Là, dans la mesure du possible et avec plusieurs galeries, donc la galerie Howard Greenberg et la galerie Silverstein, on a pu faire un transport uniquement de tirages okay. simples. Donc voilà, pour l'unité, les coûts essentiellement. Il y a toujours aussi une question budgétaire pour la réalisation d'une exposition. Après, il y a certains prêteurs qui exigent que les tirages restent encadrés, et ça a été le cas notamment pour les œuvres qui sont présentées de Diane Arbus et mmh. qui viennent de la galerie de San Francisco, où là, les œuvres sont restées encadrées, et donc là, c'était un transport qui devait se faire en caisse. Après, c'est transport par avion. Mmh. Et notamment sur ces transports qui viennent des États-Unis, il y a aussi les questions de douane sur le fait d'importer temporairement des œuvres d'art, et donc il y a des formalités de douane aussi à remplir pour que okay. les œuvres puissent rester en France pendant deux mois et demi, et ensuite on s'engage évidemment à ce qu'elles repartent aux États-Unis.
On va les garder, c'est sûr. Du coup, ça me fait rebondir sur quelque chose, puisque tu disais que pour les œuvres d'un Airbus, elles sont arrivées encadrées. Du coup, est-ce que ça conditionne un peu l'encadrement du reste de l'expo? Est-ce que ça s'est passé dans ce sens-là, du coup?
Ça s'est passé dans le sens inverse.
D'accord.
C'est okay. que, du coup, elles sont arrivées encadrées, mais elles sont arrivées encadrées avec des cadres blancs.
Ok.
Et c'est vrai que sur l'ensemble de l'exposition, et là plus dans une question et une volonté scénographique, on avait plutôt choisi un encadrement assez simple, noir, le plus sobre possible, et qui mettait aussi en valeur du coup les tirages qui sont tous noirs et blancs. Mmh. Et quand on a reçu ces encadrements qui étaient blancs, et honnêtement, on n'était pas au courant qu'ils allaient être ouais. blancs. Là, du coup, on a de nouveau un échange avec la galerie et à discuter avec eux s'ils sont d'accord pour qu'on décadre les œuvres, mmh. qu'on les réencadre dans cette volonté d'homogénéité de l'ensemble et de cohérence scénographique pour l'ensemble de l'exposition. Et là, ils ont eu la gentillesse d'accepter, et avec notre engagement professionnel aussi derrière sur vraiment la mise en œuvre de l'encadrement.
Ok, donc tu parlais du transport avant, et j'imagine, voilà, transporter des objets, ça comporte un risque, quoi. Donc il y a forcément des responsabilités qui viennent avec ça. Comment ça se passe, du coup, pour que tout le monde soit content et sûr que personne n'accuse personne d'un truc qui ne s'est pas passé, ou enfin voilà, quoi, tout le monde soit ok avec ce qui se passe?
Alors, au niveau des risques, je dirais des risques généraux par rapport à une exposition, autant sur la question du transport que sur la question de l'installation, de l'accrochage et de la période aussi où l'exposition va être ouverte au public. On prend un contrat d'assurance qui est une assurance qu'on appelle clou à clou. Mmh. Et donc, c'est vraiment la compagnie d'assurance qui prend en charge tous les risques à partir du moment où le cadre a été déposé ou, on va dire, est sorti d'une réserve chez un galeriste ou dans un fonds, mmh, et qui sera installé dans le lieu d'exposition et ensuite qui va repartir dans la réserve ou dans le fonds. Donc, c'est vraiment un contrat du départ avec tout ce qui s'est passé, toute la vie de l'œuvre pour l'exposition, jusqu'à son retour dans le fonds, dans la réserve ou chez le galeriste. Donc du coup, en ce qui concerne l'assurance, ça veut dire que voilà, il faut assurer le transport qui se fait par avion. Là, en ce qui concerne les œuvres qui sont arrivées des États-Unis, le transport qui peut se faire aussi par camion. Donc là, il y a aussi des exigences en termes de transport sur l'emballage, sur le conditionnement, sur la manière dont ça va être manipulé. On travaille avec des transporteurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là et qui ont l'habitude de travailler avec soin et qui connaissent vraiment toutes ces normes.
Oui, j'imagine que c'est pas les déménageurs bretons qui font ça.
Après, donc oui, sur cette question de risque et de responsabilité, du coup pour assurer et prouver du bon déroulement de l'ensemble des transports, de la phase d'accrochage et de la période d'exposition, on a les constats d'état. Et donc, ces constats d'état sont faits avant le transport par une personne spécialisée en régie d'œuvre qui va faire le constat chez le galeriste ou dans le fond. Et ensuite, une fois que le transport est fait, que les œuvres arrivent ici sur le site d'exposition ou chez l'encadreur, parce que certaines œuvres sont arrivées directement chez l'encadreur, il y a un constat d'état qui est fait, où donc là, chaque tirage dans son emballage va être déballé, va être constaté à la loupe, à la lampe, et tout est relevé. Okay. Donc chaque petit pliage, chaque petit défaut, les coins qui ont été cornés, et autant pour le tirage que pour le passe-partout, tout est notifié sur un rapport de constat. Okay. Et ensuite c'est transmis au prêteur. Et il y aura de nouveau un constat qui va être fait avant décrochage, au moment du décrochage, et ensuite un nouveau constat sera fait chez les galeristes ou les prêteurs une fois que l'œuvre est retournée à bon port.
Et, okay. Donc si quelque chose s'est passé, on sait exactement quand est-ce que ça s'est
passé. À quelle étape ça s'est passé, ouais.
Ok. Et du coup, voilà, on parlait aussi des tirages qui ne sont pas arrivés encadrés. Donc là, il faut les encadrer ici. Donc tu disais que c'était arrivé chez l'encadreur directement, donc qui est une société qui s'en occupe, j'imagine, qui est spécialisée là-dedans, oui, que vous avez sélectionné avant. J'imagine qu'eux, il y a des exigences particulières quand on passe le contrat avec eux. Comment ça se passe exactement?
Alors là, le travail avec l'encadreur, là, dans la mesure où les œuvres ne sont pas sur place, et donc il faut imaginer l'exposition avant d'avoir les œuvres sous les yeux et entre les mains, on travaille d'abord par rapport à la liste d'œuvres, et où là, les prêteurs en général nous transmettent toutes les infos qu'ils ont par rapport à un tirage, donc les dimensions du tirage, s'ils sont déjà en passe-partout, quelles sont les dimensions du passe-partout. Et sur base de cette liste, on imagine l'accrochage et l'encadrement, du coup, quels sont les différents formats qu'on va choisir. Et ceci aussi dans une volonté de cohérence d'ensemble et de cohérence scénographique.
Bien sûr.
Et après, c'est une question aussi de voir les différents types d'encadrement, les différentes essences de bois. Est-ce qu'on part sur du laqué? Est-ce qu'on peint à la main? Est-ce que là, en l'occurrence, c'est l'encadrement en érable qui a été peint à la main?
Okay.
Même chose pour le choix des passe-partout. Il y a différentes possibilités d'épaisseur, de tonalité, de carton. Là, ça a été, je dirais, les passe-partout ont plus été sélectionnés au moment où on a reçu les tirages, parce que là, il faut vraiment avoir l'œuvre sous les yeux et vraiment choisir la bonne, la bonne tonalité de carton.
Ouais, parce que selon le papier qu'il y a, c'est pas forcément la même chose. D'accord. Et du coup, j'ai envie de rebondir sur tous ces choix-là, parce que bon, c'est vrai qu'ici, on a un choix, comme tu disais, qui est plus là pour mettre en valeur l'œuvre et qui est assez sobre au final. Est-ce qu'il y a quand même des... J'ai envie de dire, est-ce qu'il y a des choix qui n'étaient pas évidents et qui ont dû être faits ici?
Je dirais que c'est plus dans le niveau de qualité qu'on a envie de mettre dans l'accrochage, qui est aussi en regard des réalités budgétaires, toujours. Oui. Mais c'est vrai que là, l'important pour nous, c'était d'avoir quelque chose d'assez sobre, donc un encadrement fin, ce qu'on voit ici, où on est sur du 15 mm, ça pourrait être du 30, ça pourrait être du 40, on voulait quelque chose d'assez discret, et quand même sentir la matière et l'essence bois qui reste assez subtile, assez discrète, mais où on n'est pas sur du plastique ou sur du métal qui, du coup... donne un aspect un peu froid. Là, on est sur quelque chose de sobre, mais chaleureux, entre guillemets. Je pense, par ce souci du détail et cette petite subtilité qui donne la qualité aussi d'ensemble.
OK. Donc là, on a les photos qui sont encadrées et tout a été choisi avec soin. Mais ensuite, il y a le lieu, évidemment. Et le lieu, il est présent avant. Donc tout ça, il y a une attraction entre les deux. Mais plus du coup, sur l'aspect scénographique, quand le visiteur rentre, son parcours, comment est organisée la salle, etc. Et puis, avec les contraintes du lieu, évidemment, on ne peut pas forcément faire tomber un mur porteur, quoi. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se passe, comment on en est venu à avoir cette exposition telle qu'elle est aujourd'hui?
Le cas particulier du lieu, c'est donc qu'on est en phase de préfiguration. Le site est un site qui a été présélectionné pour accueillir l'Institut pour la photographie. Mais on a dû s'installer un peu en l'état, donc dans un bâtiment qui reste à l'état brut, qu'on a choisi de laisser à l'état brut. Malgré aussi quand même quelques adaptations et des ouvertures pour créer des passages et une continuité entre les différentes salles d'exposition. Donc ça, c'est des travaux qui ont été faits à minima pour créer vraiment des volumes permettant d'accueillir les différentes expositions. En ce qui concerne ici l'exposition Lisette Model, c'est par rapport au contenu de l'exposition où on a choisi la commissaire Anne a choisi de présenter Lisette Model et quatre photographes, donc on est sur trois espaces et la première salle ici présente le travail de Lisette Model, introduit l'ensemble de l'exposition et ensuite les deux salles suivantes, on a deux photographes par salle et qui permettent de faire une présentation de chacun de leur travail. Le concept scénographique en général, donc, par rapport à ce bâtiment qui restait en l'état brut et qu'il fallait aménager de façon assez rapide pour accueillir les expositions et dans cette volonté aussi de garder l'âme du lieu et finalement d'avoir toujours une empreinte de son histoire et de son vécu. Le scénographe avec lequel on a travaillé, Olivier Etcheverry, a développé un concept d'installation de cimaises qui était vraiment décroché par rapport à l'existant. Donc on a gardé les salles telles que, avec un patchwork de carrelage, de plâtre, de faux plafond. Il y a un peu tous les styles et les différentes époques du bâtiment qui restent là. Et cette idée de cimaises qui se décrochent et qui sont vraiment comme un tableau le plus neutre et le plus simple possible et qui viennent mettre en valeur les photographies. Et en parallèle de ce travail scénographique et de cette conception, on a travaillé aussi un éclairage avec le concepteur lumière Thomas Klug, qui a travaillé donc en étroite collaboration avec Olivier. Et on a fait le choix ensemble de travailler un éclairage le plus simple possible et plutôt que d'avoir une approche vraiment avec une lumière cadrée sur chaque œuvre. Là, on a un éclairage général sur l'ensemble de la simèse, qui a un éclairage assez, assez discret, monté sur, une, sur un profilé avec un rail LED, qui permet aussi de graduer la lumière. Donc, ça, c'est aussi en, en regard des contraintes de, d'exposition et de, du respect des normes d'exposition. On devait pouvoir aussi régler l'intensité lumineuse et pouvoir assurer un 50 lux ou un 60 lux sur, sur les tirages. Et pour cette question d'éclairage aussi, l'ensemble des espaces sont occultés de la lumière naturelle. Et voilà, on est dans une boîte assez hermétique, entre guillemets, en termes de lumière.
Du coup, ça, c'est l'organisation de l'espace et puis comment on a fait pour exposer les œuvres. Mais ben, il y a d'autres choix. Il y a des textes aussi qu'on, qu'on doit afficher. Il y a la couleur de la simèse. Il y a, voilà, il y a des choses comme ça. Alors, comment ça se passe, ça?
Alors là, c'est un travail en, en collaboration avec le scénographe et avec la commissaire, où donc le scénographe a, a proposé différentes, différentes tonalités. Sur le, l'exposition Lisette Model, le choix était une gamme de verts. Alors on a trois verts différents. On s'en rend pas forcément compte au premier coup d'œil, mais voilà, c'est d'avoir une nuance assez subtile et une évolution entre les différents espaces, tout en étant dans un espace assez assez doux, assez enveloppant et qui nous semblait-il mettait bien en valeur les photographies en noir et blanc. Et sur le sur la question des textes, donc là c'est Anne la commissaire qui a dans son travail sur l'exposition choisi d'extraire quelques citations qui sont vraiment représentatives de chaque photographe et de leur travail, ou en tout cas de leur approche, de leur regard et de leur état d'esprit. Et on a choisi voilà de les mettre en exergue sur les simèses par un lettrage noir assez simple pour donner un peu de contenu aux, aux différentes photos et apporter voilà, un éclairage différent. Après, oui, il y a une question qui est souvent, enfin qui est toujours un peu délicate, c'est la question des cartels. Et oui. Voilà, dans une approche scénographique de l'ensemble, les cartels, c'est toujours un peu ennuyeux finalement quand on a un accrochage. Et là, voilà, à chaque fois qu'on accroche une exposition, quand on voit l'ensemble des photographies, son cartel, son texte, c'est magnifique. Mmh. Quand on commence à y rajouter du texte, c'est voilà, ça alourdit un peu visuellement l'ensemble. Maintenant, c'est toujours nécessaire et voilà, indispensable d'avoir aussi le titre, l'histoire, le, la technique de chaque photo. Sur cette exposition et sur, sur l'ensemble des expositions, la, le, la volonté était de, voilà, de vraiment pouvoir intégrer les textes au plus possible et que ça se fonde dans la simèse. Et donc, tout ce qui est texte de, d'introduction de chaque photographe et l'ensemble des cartels, on a choisi de coller à la couleur de la simèse, ce qui était techniquement un peu délicat, ouais. Parce que du coup, il y a une recherche colorimétrique et il faut contre-typer le, la référence de la peinture pour arriver à trouver l'équivalent en référence d'imprimerie, ouais. Et CMNJ pour avoir la couleur qui colle le plus et qui se fonde le plus dans le, la tonalité des simèses.
Voilà. Okay, c'était un peu challenge. C'est le genre de choses auxquelles on ne pense pas. Bah, c'est, voilà, c'est justement pour ça que j'ai voulu avoir cette discussion avec toi, parce que bah, ouais, on, nous, on rentre dans l'expo et puis on voit les cartels qui sont discrets et on ne pense pas que derrière, il a fallu trouver, trouver la bonne couleur. Donc c'est super intéressant. Marion, ben, merci beaucoup pour avoir répondu à toutes mes questions. Je pense que ça intéressera beaucoup les gens de savoir ben, comment ça se passe concrètement. Si vous voulez encore venir voir l'exposition, ben, vous pouvez, puisque c'est jusqu'au 15 décembre. Il faut vous dépêcher un tout petit peu, mais il vous reste du temps pour découvrir ces œuvres. Je vous conseille vraiment de venir, parce que ben, voilà, c'est quand même des photographes assez légendaires. Le travail incroyable, et puis c'est vraiment très agréablement présenté. Donc voilà, vous avez jusqu'au 15 décembre pour venir voir l'exposition. Si vous n'êtes pas à Lille, c'est pas forcément toujours si loin de chez vous, donc n'hésitez pas à faire le déplacement. Il y a aussi d'autres expos à l'Institut pour la photo qui sont là en ce moment, donc vous n'allez pas venir juste pour celle-là, et les autres sont très très bien aussi.
Il y en a 7.
Oui, il y a quand même 7.
Il y a de quoi faire.
Il y a de quoi faire, voilà.
Passez une bonne journée.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez poser des questions, vous trouverez le lien vers la vidéo YouTube juste en dessous sur laquelle vous pouvez laisser des commentaires. Pensez également à vous abonner au podcast et à laisser un avis dans votre appli de podcast préférée, c'est très important pour que ce format continue. Je vous dis à plus dans le prochain épisode et d'ici là, à bientôt et bonne photo.